C'est intéressant d'observer comment on est schizophrène, que ce soit au niveau individuel, mais aussi au niveau collectif. Et c'est particulièrement vrai pour ce qui concerne la nourriture. On n'arrête pas de dire que la nourriture, c'est la santé. On n'arrête pas de dire que la France, c'est hyper important pour la gastronomie, c'est la meilleure cuisine du monde, etc., etc. Et pourtant, ce qu'on observe, c'est que on mange mal. Aujourd'hui, les parts de marché du bio, elles dégringolent. On fait du gâchis alimentaire, toujours et encore, même si la France n'est pas le pire des pays, évidemment. Et en fait, j'ai l'immense plaisir aujourd'hui de recevoir Lucie Bache, qui est la cofondatrice de Too Good To Go, qui est une startup que vous devez connaître et qui s'occupe du gâchis alimentaire. Et avec Lucie, on va essayer de parler de la situation actuelle, justement, de cette schizophrénie ambiante, mais aussi de ce que l'on peut faire au niveau individuel, au niveau des grandes surfaces, au niveau des agriculteurs, au niveau des organisations, au niveau de l'État et pourquoi pas au niveau d'organisations qui sont au-dessus des États. C'est une conversation qui est hyper importante, hyper intéressante parce qu'elle concerne notre quotidien et qu'en réalité, il n'y a pas de petits gestes. Je vous laisse l'écouter, c'est passionnant. Allez, Vlan, c'est parti. Donc bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Lucie.
Bonjour.
Comment tu vas aujourd'hui?
Ça va très bien, très content d'être là.
Et je suis ravi moi aussi. On va parler d'alimentation, naturellement. Pour toi, peut-être, c'est quoi le... Je ne sais pas si c'est le principal problème, mais si tu devais... si tu devais en trouver un, on va dire, ça serait quoi pour toi le principal problème de l'alimentation en France, mais aussi dans le monde finalement?
Ouais. Non, malheureusement, c'est trop dur d'en donner un, quoi. Je pense que l'ensemble de notre système alimentaire, il est malade aujourd'hui. En vrai, on marche sur la tête et vraiment de la fourche à la fourchette, quoi. Donc, ça commence par le monde agricole qui est juste sous-payé, qui est sous-estimé, qui, en fait, c'est les gens qui nous nourrissent et on les connaît pas, on les admire pas, on les remercie pas, on les paye mal. Et aujourd'hui, d'ici 2030, il y a 50% des agriculteurs qui vont prendre leur retraite. Il n'y a personne pour les remplacer, quoi. Personne n'a envie d'aller se remettre dans le monde agricole, notamment avec les conditions actuelles, quoi. Et puis ça continue tout au long de la chaîne en termes de quel prix on paye à chaque maillon de la chaîne, à quel point est-ce que on se perd en fait dans une non-transparence des prix qui arrive à ce que nous, consommateurs, on se rend pas compte de la valeur de notre alimentation. Pour nous, la valeur de notre alimentation, c'est uniquement le prix. Et ce prix, on essaie de le payer le moins cher possible. Et donc finalement, on a perdu la valeur de notre alimentation, l'importance que ça a pour notre santé, pour notre planète, pour le respect de tous les acteurs de la chaîne. Et donc, on veut juste payer le moins cher possible. Et donc finalement, ça vaut rien. Et donc, on se permet aussi d'en jeter une grosse partie, puisque finalement, on peut aller en racheter à bas prix. Et donc aujourd'hui, le symptôme de ce système alimentaire mondial, c'est qu'on jette 40% de ce qu'on produit. Et donc en fait, tout ça n'a ni queue ni tête. On se rend compte que jeter 40% de ce qu'on produit, mais ça n'a juste aucun sens. Quand on sait l'impact économique que ça a, c'est 1,6 milliard de dollars qui partent à la poubelle chaque année. L'impact écologique, le gaspillage alimentaire uniquement, c'est 10% des émissions de gaz à effet de serre. Et puis l'impact social, tu le disais, il y a 1 milliard de gens qui ont faim et nous on continue à jeter 40% de ce qu'on produit, quoi. Donc clairement, te dire un problème, je suis désolée, la réponse courte est ratée, mais parce que c'est juste, il y en a de partout des problèmes. Et donc pour moi, c'est vraiment repenser ça en profondeur qui est important aujourd'hui.
En fait, quelque part, c'est une, je sais pas si c'est un mot technique, mais c'est une commodisation de la nourriture, quelque part. Peut dire ça?
Ouais, c'est une désacralisation. Alors que la nourriture, c'est vraiment sacré, quoi. C'est ce qu'on met tous les jours dans notre corps et qui a un impact énorme sur notre santé. Enfin, quand on ne parlons même pas de l'augmentation des cancers, du mal-être aussi quotidien qu'on a, du nombre de gens qui deviennent intolérants au lactose, au gluten. En fait, ce que nous donnait notre terre, on l'a tellement pas respecté qu'aujourd'hui, en fait, on s'empoisonne au quotidien, quoi. Et c'est hyper triste.
Ce qui est fou, c'est que c'est un mouvement hyper récent, parce que moi, je me souviens encore de discussions assez hardcore avec mon grand-père paternel qui nous obligeait à manger le gras du jambon, je sais pas si...
Ouais, carrément.
Et donc, c'était vraiment, il y avait une sorte de... Pour le coup, évidemment, je mangeais pas le gras du jambon, en l'occurrence. Mais il y avait une sorte de respect, néanmoins. Tu vois, c'était... parce qu'ils avaient vécu pendant la Seconde Guerre mondiale et pour eux... Enfin, tu vois, un bout de gras, ça reste de la nourriture, quoi. Ouais. Et donc, enfin, tu vois, je suis vieux, mais je suis pas si vieux que ça quand même. Et je me dis, c'est fou parce que ça s'est perdu hyper vite. En fait, c'est vraiment sur les 40 dernières années. Finalement, c'est l'industrialisation de l'agriculture dans les années 70
exactement
qui a fait ça, c'est ça?
Ouais, en fait, on s'est mis. Je pense qu'on a été un peu traumatisés du manque pendant la guerre. Et donc, au sorti de ça, on s'est dit il faut produire beaucoup plus, il faut permettre à tout le monde de pouvoir se nourrir aussi. Donc, on va réduire au maximum le prix final de l'alimentation. Donc, on va produire de manière beaucoup plus efficace en perdant, en fait, toute la beauté de vraiment l'agriculture et de faire les choses bien et aussi de passer du temps sur notre alimentation. Tu vois, aujourd'hui, le nombre de gens qui se nourrissent en livraison à domicile, ou en petit plat tout fait qu'il faut juste mettre au micro-ondes. Et si tu veux, tu perds complètement le plaisir et le sens de ton alimentation, à ne plus savoir du tout la saisonnalité des produits, à ne plus savoir ce qui pousse à côté de chez toi et ce qui pousse pas, et ce qui pousse à l'autre bout du monde, à plus savoir comment ça pousse. Enfin, tu vois, moi, la première fois que j'ai vu un artichaut pousser sur une plante, j'étais « Waouh, ça pousse comme ça, en fait !»
C'est une tige, en fait.
Incroyable, tu vois. Et pareil, sur... Le simple fait, tu vois, pour moi qui grandis à Paris, simple fait de planter une graine dans de la terre, je pense que la première fois que j'ai fait ça, je devais avoir 22 ans, de mettre de l'eau dessus et d'attendre que le soleil la fasse grandir et de se dire « Waouh, ça fait une courgette !» Mais c'était, tu vois, c'était une révélation pour moi. Mmh. Et en fait, c'est là où je dis on marche sur la tête, c'est que ce truc qui est vraiment la base de notre espèce humaine, tu vois, qui est de se nourrir et de pouvoir, grâce à ce carburant, dépenser des calories tout au long de la journée, on a complètement perdu ce sens, quoi.
C'est fou, il y a tellement de tips comme ça. Tu sais, le melon, tu sais, si tu prends les petits pépins de melon, du coup, tu peux les replanter. La peau de banane pour les roses, ouais. Etc. Enfin, il y a plein
de choses. Des boutures quand tu mets ton poireau dans un verre et que tu vois qu'il arrive à se régénérer, etc.
C'est fou.
C'est trop beau, quoi. Et même penser à la pollinisation, au fait que les plantes, elles se reproduisent finalement en allant planter leurs autres petites graines ailleurs et que c'est le vent qui déplace les graines. Enfin, tu vois, il y a tellement de choses. Moi, je m'intéresse de plus en plus au sujet de l'émerveillement de la nature et du fait que quand tu grandis dans une ville, moi je suis un peu comme toi, j'ai habité entre Paris, New York, Oslo, qui était déjà un peu plus ouvert sur la nature, mais en fait tu t'y perds, quoi, et tu perds cette compréhension de la nature, alors qu'en fait c'est tellement bon, mais profondément bon, de se rapprocher de la nature et de passer du temps dans cette nature.
Et tu parlais tout à l'heure des allergènes, c'est-à-dire les intolérances. Est-ce que c'est l'industrialisation qui explique aussi l'intolérance, c'est-à-dire le fait qu'on a essayé d'optimiser chacune des plantes, en particulier je pense au blé, parce qu'il y a beaucoup d'intolérance au gluten. Est-ce que tu peux nous expliquer ça ou...
Ouais, en fait, on mange plus du tout le blé qu'on mangeait à l'époque quand il était nutritif, bon pour notre santé et plein de vitamines. En fait, aujourd'hui, on a changé les blés. On les a rendus plus courts, je crois, pour que ce soit plus facile à récolter, pour qu'ils tiennent davantage aussi aux différentes intempéries, etc. Et donc, finalement, on a complètement... toute la partie nutritive du blé, on a fait un truc qui, en fait, où effectivement c'est beaucoup plus riche en gluten. Donc, quand avant la guerre, tu mangeais une miche de pain, c'était hyper nourrissant. Et d'ailleurs, c'était une grosse partie de notre alimentation avant le pain. Et aujourd'hui, on se retrouve avec de la baguette blanche qui est uniquement, ça te fait gonfler, en fait, mais ça te procure aucun nutriment. Et donc, aujourd'hui, on le voit petit à petit revenir dans, tu vois, il y a des boulangeries comme Terroir d'Avenir ou des choses comme ça qui refont des blés anciens, qui refont du pain au levain. Et ça, quand tu manges une tranche de pain au levain de blé ancien, mais c'est pas du tout aussi... Enfin, ça n'a rien à voir avec manger de la baguette, quoi. Et en fait, le problème, c'est qu'on s'est tous installés dans un truc de... on adore tous notre baguette au petit-déj, au déjeuner, au dîner. On mange de la baguette bien blanche. Et en fait, on a l'impression qu'on aime ça. Mais clairement, nos papilles, elles nous, à l'origine, elles nous disent plutôt « mange pas ça, c'est nul, en fait, nutritivement parlant ». Et donc, c'est un peu ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, je pense qu'avec cette transition écologique nécessaire et urgente, on se retrouve à devoir déconstruire tout ce qu'on nous a expliqué depuis petit comme étant la bonne façon de vivre, comme étant le plaisir. Et il faut réinventer de nouvelles formes de plaisir, notamment en étant plus sobre, en vivant plus lentement. Et tout ça, ça nous est pas naturel, quoi.
Et ce que tu disais aussi, c'était les choix, je sais pas si on peut dire financiers, mais les choix d'investissement, entre guillemets, enfin d'investissement, le mot il est un peu fort, mais c'est-à-dire au niveau individuel, tu vas mettre plus d'argent dans, je sais pas, un téléphone portable, un ordinateur, une console... des abonnements XY plutôt que dans ta alimentation aussi. C'est-à-dire qu'effectivement, l'alimentation, tu vas toujours chercher au moins cher. C'est-à-dire qu'en fait, tu considères que, je sais pas, un plat préparé versus cuisiné, ce qui en plus prend du temps. Je parle pas du plaisir, mais vraiment, je suis dans cette logique d'optimisation de tout.
Non, mais tu vois, c'est ça qui est fou, c'est que la plupart d'entre nous, on considère que c'est normal de payer 1 000 euros pour un téléphone portable. Et que par contre, quand le kilo de radis est à plus de 6 euros, on se dit, non mais t'as vu comme c'est cher. Alors que franchement, mettre 1000 euros dans un téléphone portable, quoi. Et en fait, c'est là le problème, c'est que c'est très compliqué de soutenir le propos que notre alimentation devrait être plus chère. Parce qu'il ne faut pas oublier tous les gens qui ne peuvent pas payer davantage pour leur alimentation. Et en même temps, regardons le budget moyen des Français. Aujourd'hui, le budget dédié à l'alimentation, c'est le seul qui est en décroissance permanente et qui est plus bas aujourd'hui en termes de pourcentage que ce qu'il était à la sortie de la guerre. Donc c'est là où il faut remettre un peu les choses en perspective aussi et de se dire à quoi on dépense notre argent et comment est-ce qu'on peut accepter de dépenser moins pour des choses qui finalement nous paraissent indispensables mais ne le sont pas, et de dépenser davantage dans un truc qui est tellement central pour nos vies, quoi, et pour notre santé.
J'aime bien reconnecter avec mon moi d'il y a 10 ans et me dire tu vas mettre 1000 euros dans un téléphone portable.
T'imagines? Impossible.
Je pense que je te regarderai en disant ouais, c'est ça, ouais.
Mais complètement.
Ouais. Ça n'a aucun sens, surtout que c'est un appareil qui ne dure pas.
Non,
mais
en fait, ils sont tellement forts en marketing et ils sont tellement forts à tous ces process addictifs pour le cerveau même que tu te dis je ne peux pas vivre sans mon téléphone. Et vraiment, pour avoir essayé, je n'y arrive pas.
Mais de toute façon, c'est un élément d'intégration sociale. Enfin, je veux dire, il ne faut pas se tromper. Ouais. Un réfugié, par exemple, un truc qu'il aura toujours, on a toujours cette image, voilà, mais en fait, un réfugié, il aura toujours un téléphone portable. Parce qu'en fait, c'est un élément d'intégration sociale. C'est hyper important. C'est ta connexion au monde. Ouais. Mais c'est vrai que le prix, et surtout, ils sont, enfin, ce que je disais, mais j'ai fait un épisode là-dessus avec Guillaume Pitron, mais ils sont non renouvelables. C'est-à-dire qu'en fait, au bout de 3 ans, allez, 5 ans max, ton téléphone, en fait, tu peux le jeter.
Ouais, et on s'est installé dans ce... En fait, l'obsolescence programmée, bah, c'est OK, quoi. Donc, on a... Ah, mais ouais, ça fait déjà 3 ans que je l'ai, donc forcément, je vais en racheter un. Mais t'imagines, c'est 350 euros, en gros, de budget annuel pour ton téléphone. Enfin, tu vois, ça serait bien qu'on dépense un peu moins là-dedans et qu'on exige que nos téléphones soient moins chers et qu'on accepte que notre alimentation doit être plus chère, en fait.
Moins chère ou qu'il soit réparable, tu vois, type Fairphone ou quoi, quoi.
Au moins, t'en achètes un par vie et c'est après, ça. Tu le gardes.
Et après, tu modifies les trucs à l'intérieur dès que ça marche plus, quoi.
Complètement,
tu vois,
enfin, complètement.
Toi, t'es sur un sujet du gâchis alimentaire, de toute évidence. Est-ce que la France, c'est une bonne élève par rapport à d'autres pays, je pense aux États-Unis où vous êtes implanté aussi, ou est-ce que on est vraiment à la rue autant qu'eux, ou est-ce qu'on n'est pas un très bon élève, ou enfin comment ça se passe?
Alors, donc nous, avec Too Good To Go, on est présent dans 17 pays aujourd'hui, 15 en Europe et effectivement les États-Unis et le Canada. On a démarré en Scandinavie, ensuite je suis revenue pour lancer la France au début, et puis ensuite je me suis chargée de lancer tous les autres pays. Donc j'ai eu la chance de passer beaucoup de temps chez chacun de nos confrères européens. Et franchement, je pense qu'en France, on peut être assez fier de l'état du sujet du gaspillage alimentaire. Il y a la loi Garot qui passe en 2016, donne l'obligation de signer des conventions de dons pour les magasins de plus de 400 mètres carrés. Et donc, en fait, autant cette loi, moi je pense qu'il y a des choses à redire, autant elle vient vraiment placer le gaspillage alimentaire au centre du débat et elle le remonte en termes de préoccupation et des Français et des politiques. Donc là-dessus, depuis 2016, cette loi d'abord, elle a fait plein de petits en Europe. Et donc la France a toujours été assez pionnier dans finalement l'implantation de solutions pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Je pense qu'on peut... Le don est assez répandu en France. Il y a encore plein de choses à refaire, mais c'est déjà là. Et puis Too Good To Go, typiquement, c'est développé de manière ultra rapide en France, beaucoup plus que dans n'importe lequel des pays européens. Après, pour être allé aux États-Unis, j'ai passé les 2 dernières années aux États-Unis. Ça n'a rien à voir, en fait. On s'en fiche. Eux, quand ils viennent dans nos boulangeries en France, ils ont l'impression qu'on est en pleine guerre, qu'il n'y a rien. Là-bas, c'est l'opulence exacerbée, que ce soit dans les magasins ou dans les petits commerces. Et ça fait partie du process de jeter. C'est même pas tant un problème. Et autant, nous, on a une conscience écologique qui est quand même largement en train de s'installer de manière pour tous. Là-bas, on n'y est pas du tout. En fait, ils sont encore tellement bloqués sur leurs enjeux sociaux de base que en fait la crise climatique ça passe bien après le fait que les gens puissent ne pas mourir de faim dans la rue quoi. Donc finalement en arrivant aux États-Unis on s'est rendu compte à quel point on était, alors je sais pas si on est en avance en Europe ou en retard là-bas, j'ai tendance à dire plutôt en retard là-bas.
Moins en retard ici.
Voilà, c'est ça, on est moins en retard en Europe qu'aux États-Unis et par contre bah après to go la force du modèle c'est qu'on allie vraiment les intérêts économiques puisque quand on paye un panier surprise sur Too Good To Go, on le paye à un tiers du prix. Et les intérêts écologiques, en récupérant un panier, on le sauve du gaspillage. Et les intérêts sociaux, puisqu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui se nourrissent avec Too Good To Go. Et finalement, on multiplie leur pouvoir d'achat sur l'alimentation par 3, ce qui aujourd'hui est, dans le contexte d'inflation, encore plus pertinent que ça n'y était quand on a démarré il y a 7 ans.
Et tu sens qu'ils sont réceptifs, justement ou...
Bah alors ils sont réceptifs, clairement. Aux États-Unis ça se passe super bien. Aujourd'hui, on est présent quasiment dans une quinzaine de villes déjà. Donc, on a pu aller vite. Après, donc, je dirais les petits commerces et les consommateurs sont très réceptifs. Et donc, on a eu la bonne surprise de même pas avoir à changer le concept. C'est exactement le même concept et ça marche tout aussi bien. Par contre, c'est au niveau des grands groupes où nous, ça nous a vraiment aidé en Europe qu'ils aient tous des objectifs de réduction du gaspillage alimentaire déjà, soit parce qu'il y avait une réglementation en place dans le pays, soit parce que c'est tellement une demande des consommateurs. Aux États-Unis, ils n'en sont pas là. Et en fait, il y a plein de grands groupes qui n'ont pas du tout d'objectifs de réduction du gaspillage alimentaire. Ils sont plutôt sur la réduction des packaging et des plastiques, mais peu encore sur le gaspillage. Et donc, c'est là où on a encore un énorme potentiel aux États-Unis, c'est d'aller vraiment convaincre les grandes marques de s'engager à nos côtés aussi.
Alors, si on parle d'alimentation, du coup, il y a... En fait, on l'a un peu survolé au début, mais finalement, il y a plusieurs problématiques. Il y a la manière dont on produit, donc l'optimisation, et en particulier l'optimisation des graines, finalement, enfin vraiment de ce qu'on plante, et c'est pas forcément idéal. La manière dont on produit, la manière dont on rémunère, et puis ensuite, la manière dont on consomme. En fait, c'est ça, hein, si je me trompe pas. Mmh. Donc, la manière dont on consomme, c'est, il y a des lois en Europe, ça a commencé par la France, mais il y a des lois en Europe, et les gens sont à peu près conscients. Et effectivement, avec l'inflation et ce qu'on voit avec les étudiants, peut-être que les gens ont moins envie ou font plus attention au gaspillage alimentaire. Peut-être.
Ouais. Alors les lois. Alors, je rajouterais juste à ton descriptif la manière dont on distribue aussi l'alimentation. Mm-hmm. C'est-à-dire que les grandes et moyennes surfaces, elles ont un énorme rôle à jouer aujourd'hui, puisqu'elles sont vraiment entre les fabricants, les producteurs et les consommateurs. Donc c'est qu'est-ce qu'elles décident de distribuer, à quel prix, à quelle période de l'année, quelle marge elles prennent, à quel prix elles achètent les produits. Donc finalement, c'est vraiment la pierre angulaire du système alimentaire. Et là, je parle de grandes et moyennes surfaces, mais aussi, on a énormément de petits commerces encore en France, et heureusement. Et donc, on va avoir différentes façons de distribuer de l'alimentation. Et après, le consommateur, il a un énorme rôle à jouer d'en dire quel produit il a envie d'acheter et quel produit il n'a pas envie d'acheter. Est-ce que, souvent, c'est marrant parce que quand on fait des enquêtes auprès des consommateurs, ils disent à quel point c'est important le bio, le local, le sans plastique, etc. Et en fait, on s'aperçoit dans leur comportement en magasin qu'ils sont quand même tout à fait schizophrènes. C'est-à-dire que entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font en magasin, en fait, ce qui compte dans l'achat, c'est toujours et encore le prix, et ils vont acheter ce qu'il y a de moins cher. Alors, il y a quelques contre-exemples à ça. Hein. Typiquement, il y a une marque qui s'appelle C'est qui le patron.
J'allais t'en parler. En fait, j'allais te parler de ça et de... Enfin bref, vas-y, commençons par C'est qui le patron.
C'est qui le patron, donc c'est l'idée de définir avec les consommateurs, avec un collectif de consommateurs, le cahier des charges du produit et de construire avec ce collectif le prix juste d'une alimentation durable et qui rémunère bien tous les acteurs de la chaîne. Ce qui est assez impressionnant avec ce qu'ils ont fait, c'est que aujourd'hui, C'est qui le patron est le lait le plus vendu en France, alors qu'ils n'ont aucun commerce dans les magasins et qu'ils n'ont jamais fait de campagne marketing. Et donc, tu as un lait qui est un peu plus cher, qui rémunère justement le producteur et où les gens sont prêts à payer finalement ce prix supplémentaire. Et donc, ça laisse à penser que à partir du moment où le consommateur est informé sur le prix qu'il paye, il est, dans la majorité des cas, volontaire pour payer plus cher s'il sait où va son argent. Ce qui est très frustrant, c'est quand tu vois un produit qui est vachement plus cher et que tu n'as aucune idée de est-ce que c'est le distributeur qui est en train de s'en mettre plein les poches.
C'est ça, ou le packaging.
Ou les marketeurs. Et donc, qu'est-ce que
je paye ? C'est les boîtes qui font la pub.
Ouais, c'est ça. Et en fait, on se dit, consommer, c'est voter. Et donc, quand je consomme et que je paye un prix qui me semble plus cher que le premier prix, pourquoi je paye ? Et je pense que c'est vraiment la preuve de C'est qui le patron aujourd'hui, c'est que, en fait, quand on nous explique, quand on nous laisse décider aussi de ce pourquoi on a envie de payer, on est prêt à payer les quelques centimes supplémentaires qu'il nous faut pour payer une brique de lait juste et durable plutôt qu'une brique de lait classique.
Alors, je vais enchaîner sur cette partie. Est-ce que tu penses que, comme il y a souvent maintenant dans les supermarchés l'arrondi en caisse, est-ce que tu penses qu'on pourrait envisager, ce serait sans doute un peu compliqué à faire, mais je pense que c'est techniquement possible, de donner le choix aux consommateurs, il faudrait qu'il y ait une forme de transparence des grandes surfaces bien sûr, de payer 5, 10, 15 centimes de plus pour un produit en sachant que ça va directement au producteur. Est-ce qu'on pourrait, tu vois, je sais pas, tu as une brique de lait qui vaut, je sais même pas exactement combien ça vaut, mais je pense que dans les 80 centimes, ouais. Et versus, ben, tu la payes 1 euro, si tu le souhaites, si tu le peux, mais en ayant la certitude que ces 20 centimes vont au distributeur. Est-ce que ça, ce serait pas un truc qu'on pourrait faire ?
Au producteur.
Ouais. Oui, pardon. Bah, au distributeur,
pour le coup, vraiment, ce que tu viens de décrire, c'est le modèle, c'est qui le patron ? C'est vraiment, ouais. Ça coûtait 80 centimes, et donc, on vous laisse le payer plus cher pour que le producteur soit justement rémunéré. Et donc oui, c'est possible.
Mais on pourrait l'envisager de manière sur l'intégralité des produits. Exactement. Mais on pourrait créer une app, je pense.
Et on pourrait créer une app, mais pour ça, il faut davantage de transparence dans le système alimentaire. Donc nous, on avait porté justement le collectif de l'alimentation durable avec C'est qui le patron, et Yuka d'ailleurs, et Too Good To Go. Et pour justement aller suggérer, une des recommandations, c'était qu'il y ait systématiquement des consommateurs présents dans les négociations entre les distributeurs et les producteurs. Et donc c'est cette idée vraiment de se dire, ce que tu viens de décrire, ça pourrait marcher, mais comment est-ce qu'on fait confiance à cette application, ce produit. Il faut que nous, en tant que consommateurs, on puisse venir auditer, on puisse rentrer dans les fermes et demander aux producteurs, vous êtes rémunéré combien en fait pour ce produit ? Et donc c'est là où on a un vrai enjeu de réconcilier un peu les différents acteurs de la chaîne et s'assurer qu'on y voit plus clair, nous, en tant que consommateurs, pour notamment comprendre toute l'énergie et le travail qu'il y a dans une baguette de pain. Tu vois, quand tu te dis, une baguette de pain, c'est une graine qui a été plantée il y a X mois par un agriculteur. Ensuite, c'est passé dans une minoterie pour faire de la farine. Ensuite, ça a été, on a utilisé 50 litres d'eau pour faire cette baguette. Ensuite, etc. Et à la fin, je la paye 1 euro. Wow, mais comment c'est même possible et imaginable. Et si en fait tu l'as payé 1,70€, mais que tu comprenais en fait tout ce qui est allé dans cette baguette, ben tu la dégusterais de manière différente, tu la jetterais pas, et tu apprendrais énormément sur ton alimentation. Et c'est pour ça qu'il y a un vrai sujet, exactement, il y a un vrai sujet de sensibilisation, de refaire comprendre aux gens les détails de leur alimentation en fait.
Mais on va pas rentrer dans une discussion technologique, mais j'imagine qu'avec le Web3, tu pourrais complètement envisager ça, tu vois, typiquement cette transparence, on va dire. Une question qui me vient, tu parlais tout à l'heure des produits bio. La réalité du bio aujourd'hui, c'est que les parts de marché, elles s'effondrent. Comment tu l'observes, ça? Comment tu le vois? Parce qu'en fait, c'est très étrange. Ça a pas mal augmenté ces dernières années. Ouais. Et puis là, en fait, la réalité, pas statistique, mais...
Ouais, vraiment, les chiffres, c'est que ça s'effondre. C'est complètement. C'est assez triste. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Je pense que les gens ont dans la tête, et ils ont pas forcément tort, que le bio, c'est plus cher. Donc, dans une problématique d'augmentation des prix, on va essayer de... Tant pis, on fait des concessions. Et la première qui saute, c'est... Bon, en fait, je vais arrêter d'acheter du bio. J'en parlais avec La Fourche, qui est du bio en ligne, justement, à bas prix, pour vraiment rendre le bio accessible à tous. Eux, ils voient pas de chute de leur vente. Donc, je pense que ça montre encore que c'est vraiment corrélé au prix. Après, je pense qu'encore une fois, il y a un espèce de... En fait, on n'y comprend rien à tous ces labels de bio, d'équitable, d'agriculture, de conservation des sols. Enfin, il y a tellement de labels aujourd'hui, de sans gluten, de sans lactose, etc., que en fait, le consommateur, et en vrai, moi, la première, confond tout. Est-ce que c'est mieux de consommer bio, mais non local, ou est-ce que c'est mieux de consommer local, non bio? Est-ce que tu peux encore manger du poisson et de la viande aujourd'hui? Non, à en croire tous les chiffres, etc. Donc, comment est-ce que tu te nourris? Comment est-ce que tu as la nutrition suffisante pour pas avoir des carences partout, etc. Enfin, en fait, il y a une espèce de confusion tellement énorme sur l'alimentation que, comme je sais pas, bon, je vais plutôt prendre le moins cher, quoi. Et je pense que c'est là où le bio a un peu perdu en crédibilité. Ce qui est dommage, c'est que tous les acteurs qui essayent d'inventer un système alimentaire plus juste et durable, ils se au lieu d'être tous ensemble, en fait, bah, ils se tirent un peu dans les pattes les uns des autres. Et les gens qui font de l'agriculture raisonnée, ils vont dire que le bio, c'est nul et qu'en fait, c'est le cahier des charges, il n'est pas cohérent. Le bio, ils vont dire que bah, finalement, c'est vraiment, il n'y a que le bio qui compte et peu importe le local, parce que tant qu'on consomme bio, il y a moins de pesticides et donc moins d'impact sur l'environnement et la santé. Enfin voilà, en fait, ce qui est très important, je pense, dans cette transition écologique, c'est qu'on fasse les choses les uns avec les autres, qu'on sensibilise énormément les consommateurs pour leur expliquer et pour être transparent, et que surtout, on ne commence pas à se tirer les uns les autres dans les pattes, parce que c'est ce qui décrédibilise, par exemple, le bio aujourd'hui et qui fait que les ventes chutent et que donc, peut-être que le bio, sa vocation n'a pas perduré dans le futur.
Mais quelque part... Enfin, je pense pas que ça soit volontaire, parce que je suis pas du tout complotiste, donc je vais certainement pas partir là-dedans. Mais c'est vrai que quand tu reprends le bouquin d'Anna Arendt sur le totalitarisme et qui te dit, la meilleure manière de perdre les gens, c'est d'envoyer des informations complètement contradictoires les unes avec les autres. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'écoutais, pour la blague, mais un nutritionniste, enfin pas pour la blague, je l'écoutais sérieusement, un nutritionniste sur un podcast, et en fait, à la fin... Franchement, j'étais là, genre, je comprends plus rien. C'est-à-dire qu'en fait, ils te disent, le mec te dit, non, mais le label bleu blanc-cœur pour la viande, c'est super. La fille te dit, ouais, mais en fait, tu sais, il y a quand même des limites au label bleu blanc-cœur. Alors, du coup, c'est bien, c'est pas bien, je sais plus. Alors, est-ce que ça vaut le coup que je regarde? Parce qu'en fait, et puis tu vas chez ton boucher, tu fais, allez, bleu blanc-cœur, ça devient. Et tu fais, aucune idée. Donc...
c'est ça le problème, c'est que les labels, finalement, ça veut rendre des sujets compliqué en une classification simple. Et en fait, c'est pas simple. Tu vois, savoir si pour toi, c'est plus important de manger du pain au levain ou de manger des légumes bio, bah en fait, on n'est pas constitué pareil. Et donc, ça se trouve, pour toi, ça va être une chose, pour moi, ça va être une autre. Je pense que le plus important, c'est un peu de se reconnecter à soi-même, donc à la nature, parce qu'on reste une espèce animale qui vit dans un environnement qui aujourd'hui est complètement dénaturé. Enfin, tu vois, quand tu regardes autour de toi et qu'il n'y a que du béton, des voitures, etc. Enfin, qu'est-ce qui reste de notre environnement naturel? Pas grand-chose. Et donc, si l'alimentation, c'est peut-être un peu justement ce résidu de notre environnement naturel, autant passer du temps dessus, la comprendre. Et vraiment, quand on arrive à savoir ce qu'on doit manger pour se sentir en forme avant une séance de sport, après une séance de sport, quand on est un peu fatigué, quand on a le teint pâle, qu'est-ce qu'on devient plus puissant, en fait? Enfin, vraiment, on peut devenir des surhommes et des surfemmes si on comprend le carburant qu'il nous faut à tel ou tel moment de l'année, de notre vie et de notre activité physique, quoi.
Et t'as pas l'impression, en discutant là avec toi, je me dis, mais en fait, les labels, c'est des pansements. C'est-à-dire qu'en fait, on a perdu le bon sens.
Ouais,
et du coup, on essaye de mettre des pansements sur un truc qui, de toute façon, ne fonctionne pas. En fait, et je pense que c'est ça le problème à l'origine.
C'est de manière plus globale, t'as les dates de consommation, qui est nous un sujet dont on s'est emparé chez Too Good To Go. Avant les années 60, ça n'existait pas, les dates. En fait, tu pouvais tout simplement te ramener à tes sens. On a un nez au milieu du visage. Tu sens le produit,
tu vois qu'il y a des champignons, tu dis bon.
Ouais, exactement.
Ou tu mets un œuf dans l'eau et puis tu regardes si c'est encore pourri.
Tu vois tous ces remèdes de grand-mère qu'on a complètement perdus. C'est juste trop dommage. Et en fait, on a mis des dates dessus. Du coup, aujourd'hui, on comprend plus rien aux dates. On sait même pas qu'il y a une différence entre une date à consommer de préférence avant le ou une date à consommer jusqu'au. Du coup, on jette. Dans le doute, il y a même des gens qui jettent un ou deux jours après la date juste pour être sûr, tu vois. Alors que la plupart des produits, il y en a notamment les produits secs, ne se périment simplement pas. Si tu veux, ça va jamais être mauvais pour ta santé. Parfois, ça change un peu de goût, de texture, mais c'est quand même très rare qu'un petit lus devienne nocif à ta santé, tu vois. Et donc, à cause de ça, on jette. Et derrière, ça produit 20% du gaspillage alimentaire en Europe. Et surtout, c'est lourd dans notre portefeuille aussi. Donc, si on arrêtait de jeter et qu'on achetait des meilleurs produits, qu'on comprenait mieux. Enfin, tu vois, c'est là où il y a une vraie... il faut repenser complètement notre rapport à l'alimentation pour s'installer dans un système alimentaire meilleur.
Et puis la réalité, je pense que... Enfin, tu m'arrêtes si je me trompe, parce que je ne suis pas du tout médecin, mais toi non plus.
On peut dire n'importe quoi ensemble, finalement.
Mais je pense, mais peut-être que je me trompe, que les seuls produits qui peuvent te faire avoir des infections alimentaires... c'est les œufs, la viande et le poisson. C'est-à-dire que tu n'as jamais tombé malade avec des légumes.
Ouais, les produits animaux, c'est vraiment ce qui est à risque.
Les légumes, je vois pas très bien comment tu peux faire une intox. Même si tu manges un truc avec des champignons, enfin les champignons mis à part, je veux dire, les champignons.
Encore une fois, enfin tu vois, il y a des gens qui vont réagir totalement différemment.
Une courgette un peu pourrie, tu vas pas tomber
donc,
malade.
Non, et puis sur les légumes, ça se voit en fait. Au pire, il y a un mauvais goût. C'est un mauvais goût.
Tu coupes le bout qui va pas.
Exactement. Et pour ça, il faut savoir cuisiner. Et après, le problème, c'est que t'as tout à fait raison. C'est majoritairement les produits d'origine animale qui peuvent être à risque, mais dans un plat préparé. Qu'est-ce que tu sais? Tu vois, t'en sais rien en fait, tu sais pas ce qu'il y a dedans. Et donc, du coup, bah, de là à savoir, effectivement, tu vas te fier à la date, puisque comme tu n'as aucune idée de ce que tu vas manger, bah, tu sais pas comment ça a été fait. Et donc, ton seul choix finalement, c'est d'écouter la date, parce que tu sais même pas comment ça doit sentir finalement, tu vois. Donc, c'est compliqué. Nous, on se bat notamment pour que tu vois, sur des produits comme les yaourts, on passe d'une date de durabilité minimale, d'une date limite de consommation à une date de durabilité minimale, parce qu'on se rend compte que chez tous nos voisins européens, sur un yaourt, il y a marqué à consommer de préférence avant le. Mais nous, pour des raisons historiques de contexte, en France, on a une date à consommer jusqu'au. Et donc, bah, c'est comment est-ce qu'on devient plus intelligent là-dessus. Et puis pareil, il y a tout un nombre de produits qui vraiment ne se périment pas du tout. C'est-à-dire qu'on a retrouvé du miel du Moyen-Âge, il était encore tout à fait consommable aujourd'hui. Donc sur les produits comme le miel, le vinaigre, la farine, tous ces produits-là qui vraiment ne changent pas, n'évoluent pas le dans sucre, leur constitution, bah, il faut simplement supprimer la date en fait, pour pas, pour le coup, orienter le consommateur vers un truc faux, quoi.
Il y a plein de tous les produits secs en fait. Donc, et il y en a beaucoup, hein, le riz, les pâtes.
Bien sûr, c'est énorme. Et même les céréales, les biscottes, Après, les fruits et légumes, typiquement, il n'y a pas de date de consommation. On sait quand même quand est-ce qu'on peut les manger, quand est-ce qu'on ne peut pas les manger. Après, voilà, il y en a qui aiment les bananes, qui ne mangent les bananes que quand elles sont toutes noires parce qu'elles sont bien plus sucrées, et d'autres qui les jettent dès qu'il y a une tache noire dessus. Donc, c'est là où aussi il faut un peu encore une fois, se ramener à ses sens et ouvre la banane avant de la jeter déjà. Tu vas voir que parfois, il y a des taches noires dessus, mais qu'à l'intérieur, elle est toute jaune comme
ça. C'est ça, et puis parfois, tu peux enlever juste la... Enfin, même si elle est noire, tu vois, tu peux enlever
la partie. Il faut découper et... On a des cuisines, exactement, il y a plein de recettes trop chouettes. Nous, on a sorti le guide anti-gaspi avec Too Good To Go pour vraiment expliquer aux consommateurs comment jeter moins chez eux. Et en fait, la moitié du livre, c'est des recettes anti-gaspi. C'est qu'est-ce que tu fais effectivement quand ta baguette est dure, quand tes fruits et légumes sont trop mûrs, quand il te reste des choses dans ton frigo. Et en fait, c'est un vrai plaisir, tu vois, de prendre tous les petits restes de la semaine dans le frigo et de se faire un super plat avec, quoi.
Ça, c'est une compétence que j'ai. Enfin, autant je sais utiliser les fruits et les légumes, parce que moi, je mange pas de trucs préparés, ça n'existe pas chez moi, parce que j'ai pas été éduqué comme ça.
Tu as bien raison.
Donc, je sais faire des soupes, etc., bien sûr. Mais par contre, savoir faire, prendre tout ce qu'il y a dans un frigo et te dire, attends, j'ai fait cette recette-là, en mélangeant tous les trucs, ça, j'ai pas cette skill-là.
C'est pas simple. Après, tu peux aussi toujours te faire un espèce de petit buffet du vendredi, tu vois, où tu sors tous les petits bols qui restaient dans ton frigo. Et tu te fais un petit mix. En vrai, il suffit d'être un petit peu créatif et d'y accorder les 10 minutes nécessaires supplémentaires. Et c'est un plaisir, quoi.
Et puis parfois, même par exemple, je sais pas si t'as de la crème fraîche ou tu peux faire une quiche. Et du coup, une fois qu'elle est cuite, tu vois, tu peux la garder encore 5 jours, quoi.
Et après, il y a quand même un outil assez magique dans une cuisine. Ça s'appelle le congélateur. Ouais. Et en fait, quand tu congèles les produits, ils gardent justement la majorité des nutriments. Et puis pour le coup, tu peux t'organiser sur un temps beaucoup plus long. Typiquement, il ne faut pas hésiter. Entre le pain, tu peux le congeler. Les plats que tu fais, tu peux les mettre dans un Tupperware. Tu mets la date dessus et tu les congèles. Et ensuite, quand tu rentres, il y a plein de gens qui font ça. Ils cuisinent le dimanche pour toute la semaine. Ils mettent au congélateur et ils ressortent. Le soir, quand tu rentres du boulot crevé, tu ressors ton petit plat, tu le mets au four et tu es trop content.
Et c'est nickel, quoi.
Ouais, exactement.
La ratatouille, ça marche bien dans ce sens-là.
Complètement, exactement.
Bon, je sais que la ratatouille, mais... Là, on parle des consommateurs. On va remonter d'un cran parce que donc on va aller remonter l'écran au fur et à mesure. Ouais. Donc au-dessus, il y a les distributeurs. Qu'est-ce que tu penses de la Enfin, j'imagine que t'es pour, hein, bien sûr, mais de toute cette démarche autour des fruits et des légumes moches.
Ouais.
Qui est aussi un coup de pub, mais quelque part, c'est vrai que les légumes et les fruits sont hyper, comment on appelle ça,
calibrés,
voilà, gabarit, merci. Ouais. Et finalement, aujourd'hui, les gens savent même plus qu'une carotte ou un. Je sais pas, n'importe quel légume, une aubergine en particulier, j'ai vu un papier sur une aubergine, et en fait, à la base, une aubergine, ça avait une sorte de nez, si on peut dire ça comme ça, alors qu'aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, on sait même plus très bien à quoi ça ressemble.
Parce que c'est bizarre. Hein. Ouais. Non, mais c'est exactement ça. En fait, c'est même fou si tu pousses le concept qu'on doive les appeler des fruits et légumes moches. Parce qu'en fait, tous ceux qui sont calibrés, enfin, limite, un fermier mangerait pas ça, quoi. Il se dirait, mais cette pomme, elle est beaucoup trop ronde, c'est bizarre.
Elle est beaucoup trop verte fluo.
Cette banane, elle est beaucoup trop grande, c'est pas normal. mal d'avoir une banane aussi énorme. Ces tomates en hiver qui sont si rouges, comment c'est possible? Donc en fait, quelque part, tous les fruits et légumes auxquels on s'est habitué, les fruits et légumes beaux, ben, en fait, en vrai, une fois que tu as compris un peu comment est-ce que l'agriculture sans chimie fonctionne, c'est un peu dégoûtant, quoi. Enfin, en fait, quand tu vois des étalages entiers de tous ces produits parfaits, tu te dis, il y a un problème, en fait. Et puis, ils se ressemblent tous. Enfin, c'est comme si tu imaginais les humains qui se ressemblent tous. Enfin, c'est moche, en fait. Ça, c'est bizarre. Donc, finalement, les fruits et légumes moches, c'est très bien. L'idée, c'est que demain, ça devienne la norme, en fait. Et que bah, dans ton étalage, tu puisses trouver des carottes de toutes les tailles, de toutes les apparences, plein qui ont deux branches. Et voilà. Et avec de la terre dessus aussi, tu vois. Enfin, moi, ça me. Franchement, acheter sa salade en sachet. Où tu te dis, il n'y a pas un, mais bien sûr qu'il n'y aura pas un verre de terre et une graine de terre dessus. Mais tu te dis, moi, je préfère, en fait, quand il y a de la terre sur mes fruits et légumes, parce que ça me fait me dire que c'est finalement des vrais produits. Exactement. Et donc, tu vois, on a quand même une notion aujourd'hui où la terre, c'est sale et le plastique, c'est propre. Enfin, tu vois, alors que le plastique, c'est du pétrole, c'est vraiment des produits chimiques. Alors que la terre, c'est ce qui nous nourrit, c'est de là où on vient et de là où on retournera.
Et on connaît tous le goût de la terre. Ça veut dire qu'on en a tous mangé quand on n'en est pas mort.
Exactement. Non, mais vraiment, tu vois, et même manger un verre de terre, bah écoute, c'est des protéines, régale-toi, quoi. Enfin, tu vois, et je le dis, sachant que même moi,
tu feras pas de plein gré. Hein.
Exactement. Et demain, manger un verre de terre, moi aussi, je vais dire, ah, c'est dégoûtant. Mais enfin, tu vois, il faut qu'on arrive à déconstruire tout ça et à se remettre dans ce qui est vrai, quoi. Et ce qui est beaucoup plus cohérent avec vraiment notre espèce animale, tu vois.
Donc ce qu'on a dit, c'est que les consommateurs, on a beaucoup abordé le sujet. Les distributeurs, ouais. Ce qu'ils peuvent faire, c'est effectivement cette histoire de légumes et fruits moches. Bon, c'est l'expression, malheureusement, mais... Ouais.
Mais je pense que c'est aussi les distributeurs prendre leurs responsabilités en étant cette pierre angulaire de la chaîne alimentaire. Et donc, c'est-à-dire, d'une part, de bien rémunérer leurs producteurs et leurs fournisseurs, mais vraiment de les rémunérer dans une perspective long terme, de si je les rémunère bien, bah, quand il y a une inflation incroyable, finalement, ils vont être plus résilients aussi. Et je ne vais pas avoir la moitié des fermes qui tombent en faillite. Je ne vais pas avoir une augmentation si énorme du prix de production parce que typiquement ils ont investi dans des panneaux solaires et donc ils sont plus résilients à l'augmentation du prix de l'énergie. Enfin, tu vois, c'est vraiment aider les producteurs et se dire que c'est pas simplement tes fournisseurs, c'est tes partenaires, en fait. C'est ceux qui vont te permettre d'amener la bonne nourriture dans tes rayons. Et puis de l'autre côté, prendre vraiment leur responsabilité en termes de sensibilisation du consommateur, d'expliquer en magasin, pas juste de répondre à « Ah, vous voulez les trucs les moins chers du marché, ben, on va vous les donner. Et quand il y a de l'inflation, on va bloquer le prix du Nutella pour que vous puissiez continuer à en acheter. » Non, en fait, de venir nous expliquer la saison des fruits et légumes, de venir nous expliquer pourquoi est-ce que ce produit est plus cher, mais qu'il est plus intéressant d'un point de vue nutritif. Ben, donc, il y a vraiment une responsabilité du distributeur qui, aujourd'hui, selon moi, n'est pas prise.
Et en fait, mais après la question, il y a une responsabilité des distributeurs sur l'éducation des consommateurs, mais est-ce que, et là je vais remonter d'un énorme cran, est-ce que c'est pas la responsabilité de l'État aussi à un moment donné, c'est-à-dire, parce que la culture, en fait j'arrive plus très bien à savoir, on est tous fils de paysans, mais on est quand même pas mal déracinés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je pense que toi et moi on a encore des grands-parents qui étaient paysans. Qu'en fait, la réalité, c'est que tes enfants, enfin, je passe à des enfants, mais nos enfants, potentiellement, enfin, des gens de notre âge en tout cas, ils n'auront pas, tu vois, de grands-parents qui ont été les mains dans la terre. Et du coup, il y a une déconnexion, finalement, de la réalité voilà. Et moi, la majorité de l'éducation que j'ai eue, c'est quand même mes grands-parents, un petit peu mes parents malgré tout, enfin, ma mère en tout cas. Et en fait, est-ce que c'est le rôle des parents? Est-ce que c'est le rôle de l'école? Est-ce que c'est le rôle de l'État? Où est-ce que tu mets... Parce qu'en fait, l'éducation, est-ce que c'est le rôle des distributeurs?
Ouais. Non, je pense que c'est notre rôle à tous, en fait. Et en tant que parents, et en tant que citoyens, et en tant que collaborateurs de notre entreprise, et en tant que politique. Je pense que pour répondre à ta question, bien sûr que l'État a un rôle à jouer. Un rôle énorme. D'une part, en termes de subventions publiques, en fait, quand on paye des impôts, on a envie que ça aille au bon endroit. Et quand on sait que la politique agricole commune aujourd'hui, elle subventionne tout aussi bien l'agriculture pleine de pesticides qui est mauvaise pour nos sols, pour notre santé, que l'agriculture, la petite agriculture qui prend soin des animaux qu'elle élève et qui utilise le moins de pesticides possible, c'est pas normal en fait. Il faut qu'on change ça. Et ensuite, tu te disais, est-ce que nos enfants, ils auront des grands-parents agriculteurs ou paysans ? Non. Mais peut-être que nos enfants, ils seront agriculteurs ou paysans. Et pour moi, il y a un vrai enjeu de redorer le monde agricole, de redonner aux gens envie de devenir agriculteur, de devenir paysan, de redonner aux gens envie d'avoir les mains dans la terre toute la journée plutôt que les mains sur un ordinateur, et de se dire qu'en fait, les plus beaux métiers du monde, c'est ceux-là en fait, c'est ceux qui sont au contact du sol, de la nature, qui ont une activité physique qui fait qu'ils sont pas obligés d'aller à la gym 3 fois par semaine pour pas prendre 10 kilos ou pour se sentir bien dans leur corps. Enfin, tu vois, c'est peut-être ça en fait le nouveau luxe de demain, c'est d'être beaucoup plus en alignement avec nous en tant qu'espèce humaine. Et donc, pour moi, je pense qu'il y a un vrai enjeu et de l'État, et des entreprises, et des citoyens en tant que parents, de redorer le monde agricole, d'y retourner, d'aller passer du temps dans les fermes, d'aller admirer les paysans, les agriculteurs, de les remercier pour ce qu'ils font aussi, plutôt que de faire de l'agribashing. Voilà, ils ont besoin effectivement de rentrer dans une vraie transition. Mais il faut bien comprendre que c'est pas simple, que nous, de la même manière que payer plus cher notre alimentation, c'est pas simple, bah eux, en fait, enlever les pesticides, c'est pas simple non plus, parce que ça leur demande juste 2 fois, 3 fois, 4 fois plus de travail, et qu'ils ont déjà pas de vacances, pas de congé parental, pas de week-end. Donc faut remettre un peu tu vois, l'église au milieu du village et se rendre compte de l'effort qu'on leur demande quand nous, on n'est même pas capable de le faire de notre côté au bout de chaîne, en bout de chaîne.
Ça fait penser d'ailleurs à deux choses. La première, c'est qu'il y a énormément de joie pour quiconque a fait pousser quoi que ce soit.
Tellement. C'est un tel plaisir, c'est émotionnel. Tu vois.
Même du basilic, tu vois, quand tu vois. C'est complètement con, mais.
Ridicule, mais c'est vraiment ça.
Mais t'es là, tu fais. Ah, t'es hyper content et, après, tu veux pas le gâcher, tu vois, parce que j'ai fait avec mon basilic, c'est que j'ai fait.
Et à la fin, tellement j'ai fait différemment.
Du pesto, tu vois, une fois que c'était fini la période, j'ai tout coupé, j'ai fait du pesto. Mais...
Tout pareil. J'avais trop d'ail, mais la prochaine fois.
À t'écouter, je me dis, est-ce qu'il faudrait pas penser, alors c'est une idée comme ça qui me vient, voilà, mais à faire une sorte de remplacer quelque part le service militaire par une sorte de service où tu as une année, à partir du moment où tu deviens majeur, à passer du temps dans la terre, tu vois, pour faciliter la vie des agriculteurs, peut-être déjà premièrement, et pas tous les agriculteurs, parce qu'effectivement c'est pour aller dans des fermes d'abattage, c'est peut-être pas idéal, mais faciliter la vie des agriculteurs, reconnecter les gens avec, tu vois, la nature, si on peut dire ça comme ça, savoir ce que ça veut dire de faire pousser des plantes, quoi, tout simplement.
Ah mais complètement, je ne peux qu'approuver cette idée, tu vois, on parle du service militaire, on pourrait parler du service agricole. Effectivement, ça paraîtrait quand même plus cohérent. Après, voilà, la guerre est aux portes de l'Europe, etc. Mais tu vois, ça nous permettrait vraiment de se réconcilier avec notre alimentation. Parce que tu vois, tu dis peut-être pas tous les agriculteurs, peut-être pas ceux qui travaillent dans les abattoirs. En fait, est-ce qu'on continue à manger de la viande ou pas ? Donc, il y a un moment, il faut bien qu'on les abatte, les bêtes, en fait. Il faut bien qu'on comprenne que quand on mange un steak, on mange un animal mort, en fait. Et moi, je mange plus de viande depuis 8 ans parce que je me dis, à partir du moment où moi, je ne serais pas capable de tuer un animal, je veux pas faire un truc qui n'a pas de sens, en fait. Et le nombre de gens qui disent, ah, mais c'est dégoûtant de tuer un poulet, ou les abattoirs, c'est horrible, mais qui se mangent, un steak par jour, et qui vont au McDo, enfin, faut être réaliste, faut être cohérent, en fait. Et moi, c'est ça pour moi, ce que je peux reprocher. Tu vois, je pense qu'il faut vraiment pas être dans le jugement, vraiment pas dans pointer du doigt. Mais il faut juste être cohérent avec... tu peux pas et critiquer l'abattoir et manger 3 steaks par semaine. Quoi.
Ouais, c'est clair. Mais c'est assez marrant d'ailleurs de voir comment les gens s'émeuvent sur Instagram, sur les réseaux sociaux de manière générale, devant un animal...
Ouais, complètement. J'ai il est trop mignon.
J'ai vu un reel sur Instagram où t'as un aigle qui chope un lapin, je crois. Enfin bref, je sais plus. Et t'as des gens qui sont là, oh non, non, non. Parce que tu vois, le lapin, c'est mignon et l'aigle, c'est méchant. Mais bon, l'aigle, il est pas méchant, tu vois, lui.
Il se nourrit, quoi.
Il se nourrit, il fait sa vie, quoi. Et s'ils sont pas capables de supporter ça, c'est-à-dire un aigle qui mange un lapin, aussi triste que ça puisse être, enfin, c'est comme la vie, quoi. Comment eux, derrière, ils peuvent, manger du foie gras. Je sais pas, à Noël.
Mais si t'observes, tous les termes de l'alimentaire ont été faits pour nous déconnecter de la vérité. Bah, le foie gras, on ne te dit pas c'est un canard gavé qu'on a tué. Le steak haché, on ne te dit pas que c'est une vache morte. Enfin, tu vois, il y a un peu aussi dans les termes qu'on emploie, on est par définition déconnecté de la réalité.
Techniquement,
ouais, complètement. C'est de l'animal mort, en fait, la viande. Et tu vois, parler d'animal mort, tout de suite, ça dégoûte. Alors qu'une bonne viande, là, on est trop content, quoi. Donc, enfin, en fait, c'est vraiment, enfin, on en revient un peu au début. C'est, on marche sur la tête et on se rend absolument plus compte de ce qu'on fait. Et en fait, on est complètement emprisonné dans ce système alimentaire qui n'a pas de sens, mais auquel, enfin, tu vois, c'est un non-sens auquel on est confronté au quotidien. Et ça, que je trouve hyper douloureux. Mmh. Et voilà. Et après, sans même parler de toutes les maladies liées à la digestion, à la nourriture qu'on met dans son corps toute l'année. Enfin, moi, il y a 5 ans, on me demandait encore. Ah, mais vous pensez que l'alimentation et la santé, c'est lié ? Enfin, t'es là en mode, vous êtes sérieux de me poser la question, en fait, tu vois ? Et c'est le, à quel point on est vraiment... On considère que l'alimentation, c'est juste fait pour être instagrammé et tu vois, et joli. Et on se rend même plus compte que, bah, en fait, si t'es fatigué, pense à ce que t'as mis dans ton estomac les 12 dernières heures et tu te reposes la question, quoi.
Bah ouais, c'est fou. C'est fou que les gens... Enfin, ouais, mais après, on se rend pas... Enfin, parfois, on évolue dans des bulles, donc on se rend plus compte de la réalité. Mais, ouais, mais c'est vrai qu'à défaut de tuer un animal toi-même, au moins d'assister à la mort d'un animal... Moi, je me souviens, j'ai une mémoire assez vive comme ça de mon grand-père, du côté de ma mère, pour le coup, qui a égorgé un mouton devant moi. Eh ben, j'ai pas mangé de mouton pendant 10 ans.
C'est violent, hein. Genre, c'est horrible.
Ben, c'est horrible, en fait. Enfin, la réalité, c'est que l'animal, il hurle, que voilà, enfin, c'est difficile.
Et en même
quoi.
Temps, c'est peut-être pas si horrible. C'est aussi, tu vois, le cycle normal de la nature, etc. Bien sûr. L'homme est un prédateur, il se nourrit d'animaux aussi. Mais c'est peut-être pas aussi souvent. Tu vois, enfin moi je me rappelle encore dans les cantines scolaires de l'assiette où il faut une protéine, une viande ou un poisson, un féculent et un légume. Bah non, en fait, il faut pas une viande ou un poisson à chaque repas. Et typiquement, en plus, notre organisme, il est même pas fait pour digérer comme ça, en fait. Tu vois, notre organisme, il est fait pour le jour où on tue un bœuf, et ben on mange de la viande pendant 15 jours de suite, et puis ensuite on repart à la cueillette et on trouve des champignons et on va manger que des champignons. En fait, on est vraiment fait aussi un peu pour les monodiètes où on va manger un type d'aliment à la fois ou deux, mais tu vois, les trucs où tu manges féculents, protéines, légumes, sucre dans le même laitage, dans le même repas, c'est pas facile à digérer, en fait, pour ton organisme.
C'est pas facile à digérer, et puis justement, le fameux nutritionniste dont je parlais tout à l'heure, il disait en plus, ça annule les effets. Alors, j'ai plus exactement... Je sais que le yaourt annule les effets. Alors, je me souviens plus précisément, je crois que c'est la viande. Fer, je crois que ça enlève le fer de ton corps. En fait,
typiquement,
donc,
tu vois, le café à la fin du repas, ça te limite l'absorption du fer par ton corps de tes aliments. Donc, il y a plein de petites choses comme ça. Et en fait, le café, t'as limite intérêt plutôt à le boire en début de repas. Donc, il y a plein d'habitudes. Pareil, avoir du sucre à la fin d'un repas, c'est pas bon non plus. Manger un fruit en fin de repas, bah, c'est dommage parce que le fruit, ça se digère très facilement en dehors des repas. Alors que quand tu le rajoutes en fin de digestion, bah, ça vient peser en fait sur tout ce que t'as mangé en amont et ça vient limite fermenter aussi parce que c'est un fruit qui reste trop longtemps finalement dans ton système digestif. Donc tu vois, il y a plein de trucs de base comme ça à apprendre, et moi j'ai fait une semaine de jeûne cet été. Ça m'a changé la vie, en fait. Déjà je me suis reconnecté avec mon corps parce que j'étais pas gavée en permanence, tu vois, d'une alimentation trop riche, parce que manger 3 fois par jour, pareil, c'est pas forcément nécessaire, notamment quand tu restes assis toute la journée. Mais surtout, je me suis rendu compte en sortie de jeûne de moi qui mange très sucré. J'ai repris du sucre au bout de 2 semaines, du coup, sans sucre. Et en fait, j'ai eu un pic et j'ai la tête qui a commencé à tourner, quoi. Et en fait, me dire que normalement, je suis tellement habituée à ça que je me rends même plus compte du pic et de l'hyperglycémie dans laquelle je me mets à la fin de chaque repas. Et donc, j'ai complètement repensé aussi la façon dont je mange du sucre et ce que ça fait sur mon organisme aussi. Donc, plein de petites choses comme ça, mais qu'on devrait apprendre à l'école, tu vois, qui font... Enfin, c'est comme apprendre à marcher, apprendre à te nourrir. C'est quand même bien la base, quoi.
Bah c'est clair. Et pour revenir sur le jeûne, et c'est pas tant le jeûne, mais je prends juste l'exemple du jeûne parce que t'en parles. Il y a une forme de sagesse quand même millénaire. C'est-à-dire que les humains, on existe depuis quelques milliers d'années maintenant. Et enfin, de tout temps, on a toujours fait du jeûne. C'est pas complètement par hasard. Et quelle que soit la religion, quelle que soit la culture, le jeûne, ça a forcé parfois, mais souvent choisi. Ça a toujours fait partie, à un moment donné, de la santé, de la bonne santé.
Et en fait, le nombre de gens qui m'ont dit « Mais t'es folle, tu vas pas faire un jeûne, pourquoi tu fais ça? Ça peut être dangereux, etc. » Alors que non, aujourd'hui, il y a des façons même de résoudre des maladies grâce au jeûne. Et c'est une technique qui est de plus en plus utilisée.
Alors, en Suisse, ouais.
C'est pas vraiment mise en valeur parce que c'est complètement anticapitaliste, c'est-à-dire que on se nourrit plus, on utilise moins de médicaments, donc ça nous fait dépenser vachement moins d'argent. Donc ça c'est pas forcément encouragé, alors que c'est vraiment une technique thérapeutique énorme. Et puis en plus, nous en tant qu'espèce animale, on a été conçu pour la sous-alimentation, puisque parfois on ne trouvait rien dans la nature et donc on pouvait plus nourrir. Et notre corps a tout à fait les mécanismes pour s'aider, pour tenir là-dessus. Par contre, la suralimentation, on n'est pas du tout formaté pour en fait. Et donc, c'est pour ça que l'obésité, ça devient une maladie mondialement problématique, parce qu'on ne sait pas, notre organisme ne sait pas gérer la suralimentation. Et je pense que dans nos sociétés actuelles, on est nombreux à se suralimenter en fait.
C'est assez fou. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que quand je pense aux jeunes, ce que tu vas entendre dans les infos, parce que je pense à ça, parce que je l'ai entendu il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois en tout cas. Et s'il y a une personne qui meurt, ce qui est arrivé en l'occurrence en faisant le jeûne, du coup tu vas entendre ça aux infos. Ils vont pas remettre en perspective, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas dire bon, il y a des millions de personnes qui font le jeûne.
Qui jeûnent chaque année.
Et tout se passe bien, mais bon, là il y a une personne qui est morte. Ils vont dire ah, il y a une personne qui est morte en faisant le jeûne.
Et c'est même pas tout se passe bien, c'est enfin, le nombre de gens qui disent waouh, c'est incroyable, ça fait
ça
trop
te donne
bien.
De la puissance.
Complètement.
Ouais, complètement.
Et de la même manière, tu vois, sur les dates de consommation, tu vas entendre la personne qui est morte pour avoir consommé un produit périmé. Et par contre, on n'en a pas parlé de tous les produits qui sont jetés, encore emballés, alors qu'ils sont tout à fait bons à être mangés. Et de tous les gens qui mangent des produits périmés. Enfin, moi, mes yaourts, je regarde même plus la date dessus, tu vois. Encore une fois, je l'ouvre, je l'observe, je le sens, je le goûte et je sais si j'ai envie de le manger ou pas, quoi.
Bien sûr, bien sûr. Non, mais c'est, ça me semble assez du bon sens. Mais... Donc, on a parlé des individus, on a parlé des distributeurs, on a parlé... des producteurs plus ou moins, parce qu'en fait les producteurs, eux, il faut réussir à les faire sortir de cette logique d'optimisation.
Ouais, il faut réussir à les faire, à les garder en vie aussi, à mieux les rémunérer, à mieux les considérer et à les aider à effectivement opérer cette transition énorme. Il y en a plein, c'est pas parce qu'ils veulent pas, hein, c'est parce que vraiment ils peuvent pas, quoi. Donc il faut subventionner de manière plus intelligente et encourager cette agriculture.
On a parlé de l'État, on n'a pas parlé de l'intermédiaire qui est la FNSEA.
Ouais.
C'est quoi toi, ton regard sur la FNSEA?
C'est compliqué. Je pense qu'ils ont un travail difficile, hein, bien sûr, mais je pense aussi qu'ils prennent pas encore une fois leur rôle dans opérer et engager tout le monde agricole dans cette transition. En fait, ils sont pour l'instant plutôt sur la défensive et sur vouloir rester dans le monde actuel et protéger les agriculteurs plutôt que de les aider profondément à s'engager dans cette transition qui n'est plus optionnelle, en fait. Elle est nécessaire et obligatoire. Et donc, c'est un peu le problème, parfois, des organismes comme la FNSEA, comme l'ANIA, où ils restent un peu plutôt dans un statu quo, en voulant essayer de trouver des arrangements pour tout le monde, plutôt que de prendre une vraie opinion et de dire, en fait, on est obligé d'aller dans cette direction. Comment est-ce qu'on vous aide à y aller? Et c'est là où moi j'aimerais bien vraiment qu'ils prennent leurs responsabilités de représentants du monde agricole, de représentants des industries alimentaires et de se dire on n'est pas là pour mettre tout le monde d'accord, on est là pour porter une vision d'un meilleur monde agricole, d'un meilleur monde d'industrie alimentaire.
Ouais, j'avais reçu, je sais pas si tu vois qui c'est, Isabelle Saporta,
ouais, tout à fait.
Qui a écrit des bouquins, qui était très 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 en colère, très remontée contre la FNSEA.
Ouais.
Mais en fait, dans ce que tu décris, j'ai l'impression que... Et je vais revenir à un truc très simple que sont les marins. Quand il y a une tempête, tu peux suivre au fur et à mesure des vagues, etc. Mais en fait, ton guide, ça doit être le phare néanmoins, si tu le vois.
Ouais.
Et à partir du moment où tu vois le phare, et tu sais que tu dois aller dans cette direction. Et parfois, c'est coûteux. Et parfois, c'est pas forcément... Parfois, il peut y avoir une grosse vague en face du phare. Mais bon, c'est quand même la direction qu'il faut prendre, tu vois. Et je pense que c'est ça qu'on a un peu perdu, c'est-à-dire qu'on est dans le court-termiste permanent.
Ouais.
Ce que je peux comprendre, hein, bien sûr, parce que y a des gens qui souffrent en parallèle. Je pense aux agriculteurs.
Ouais, c'est le fameux fin du mois ou fin du monde. Quoi.
C'est ça, précisément. Mais en fait, à la fin, quand tu vas vers la fin, vers le phare, tu peux pas te tromper de chemin, c'est impossible. Et on connaît le chemin. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est fou, et dans ce que tu décris depuis tout à l'heure, c'est que c'est évident que le chemin, il est très clair, et il faut revenir à Et sans dire c'était mieux avant ou quoi que ce soit, moi je pense que la modernité elle a apporté plein de choses super. Mais il y a un moment donné, cette optimisation de tout, elle nous a amené à... On est allé beaucoup trop loin, en fait, c'est comme un balancier, en fait. C'était bien, parce que maintenant, on n'a plus de famine. Mais bon...
Mais tu vois, moi, je suis pas sûre que cet objectif final, il soit si clair pour nous tous, en fait, tu vois. Je pense qu'on a grandi dans un système dont on découvre aujourd'hui l'ensemble des travers et l'ensemble des non-sens et des absurdités, mais on sait pas faire autrement, quoi. On sait pas, mais du coup on doit plus aller visiter l'Amérique du Sud ou l'Asie, mais c'est hyper triste. Moi je pense qu'on apprend énormément de la diversité des cultures et de rencontrer d'autres. Ah mais du coup il faut que je prenne 3 mois pour y aller en bateau si je veux y aller. Ah mais je peux pas parce que j'ai un travail et il faut que je paye mon loyer, et en CDI on n'a pas le droit de prendre 3 mois de vacances, etc. Je peux plus aller au restaurant et avoir un iPhone payer moins de 25 euros mon repas au restaurant. Enfin, en fait, je trouve qu'on est tellement envahi par le nombre d'habitudes à reconstruire qu'on ne sait même pas... Et par le nombre de mensonges et notamment de greenwashing qui devient de plus en plus présent, que c'est hyper difficile de savoir c'est quoi une bonne vie aujourd'hui.
Alors ça, quand tu parles de manière générale, bon, pour le voyage, je peux quand même le dire de manière assez simple, c'est que généralement, les gens qui voyagent, d'abord, les réseaux sociaux ont quand même uniformisé un peu tous les pays. Donc, du coup, si tu pars en Argentine, tu vas retrouver précisément la même chose que ce que tu trouves à Paris. Donc, bon, voilà. et en plus, le goût des gens font qu'ils vont aller vers des choses qu'ils connaissent. Donc, par définition...
Ça sert à rien de voyager, alors.
À la fin, c'est un peu ça l'idée. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tu ne vas pas te dépayser tant que ça en voyageant. Donc, bon, c'était, je pense, le cas il n'y a pas si longtemps. Mais aujourd'hui, je crois que ce soit Pinterest, Instagram, etc., ça a vraiment uniformisé Airbnb.
C'est triste,
hein. Ça a vraiment uniformisé les lieux, ça a tout uniformisé, donc du coup malheureusement les goûts sont c'est pas précisément le cas, mais c'est quand même beaucoup le cas, donc voilà, ça répond à ça. Après je suis d'accord avec toi pour dire la sagesse dans l'absolu, c'est un peu difficile de comprendre c'est quoi une bonne vie, enfin j'ai une petite idée là-dessus, mais sur la nourriture j'ai l'impression que néanmoins on a quand même une vision assez claire de
oui, c'est sûr.
Enfin, tu vois, c'est sur la... Moi, je parlais plus de la nourriture que de manière générale.
Je pense que là encore, on a une vision claire de l'objectif, d'avoir plus de local, plus de saison, plus de rémunération de l'agriculteur, des chaînes alimentaires moins longues, etc. Mais de là à comment est-ce qu'on y arrive ? Comment est-ce qu'on passe notre modèle actuel à notre utopie ? Comment est-ce que cette utopie, elle devient réaliste ? Il y a encore du chemin à faire et il faut que tout le monde s'y mettent et avancent dans cette direction ensemble, plutôt encore une fois que les uns contre les autres en disant est-ce que c'est le bio qui va gagner ou est-ce que c'est de tous les autres types de labels qui existent, quoi.
Toi, si tu faisais pas Too Good To Go, tu commencerais par où?
Moi, je m'intéresse de plus en plus. Là, Too Good To Go, ça fait 7 ans que ça existe maintenant. On a une équipe de 1200 collaborateurs.
C'est énorme.
Donc, c'est honnêtement, aujourd'hui, de plus en plus, c'est les équipes qui gèrent. Et moi, je suis en soutien de tout ça. Mais justement, je me donne du temps aussi pour m'intéresser à la chaîne alimentaire de façon plus globale. Et moi, ce qui m'intéresse énormément aujourd'hui, c'est le monde agricole. Parce que je pense que tout part de là, en fait. Et si on arrive à faire que demain, il y a des agriculteurs qui reprennent ces 160 000 fermes qui vont fermer dans les prochaines années, qu'ils soient mieux rémunérés et que nous, citadins, on comprenne un peu le monde agricole et qu'on lui donne la valeur qu'il mérite, je pense qu'on va pouvoir faire changer les choses de manière beaucoup plus rapide. Finalement, le gaspillage alimentaire, je pense que c'est un très bon sujet pour sensibiliser les gens et leur faire rendre compte de l'absurdité de jeter 40% de ce qu'on produit, etc. C'est aussi très aligné avec nos intérêts économiques, ce qui est tout à fait bénéfique dans le monde dans lequel on est. Mais quelque part, on arrive trop tard, encore une fois. Et donc, c'est...
En bout de chaîne, en tout cas.
Oui, en fait, c'est un pansement sur la plaie, mais c'est pas réparer la plaie. Et donc, c'est ça qui m'intéresse aujourd'hui aussi. C'est, bien sûr, il faut sensibiliser le consommateur, et pour ça, le gaspillage alimentaire est très utile, mais il faut aussi s'occuper de restaurer notre système alimentaire dans son ensemble, et donc en commençant par le monde agricole.
Et en fait, c'est ce que tu dis, si je ne me trompe pas, c'est qu'il faut recréer du lien finalement entre les urbains, qui sont de plus en plus nombreux, et les agriculteurs, c'est-à-dire les gens qui...
Complètement. C'est vraiment cette idée de le faire ensemble, en fait. Et je pense que effectivement, le lien social, c'est une denrée qui est de plus en plus rare. Les réseaux sociaux, le dénature pas mal aussi, tu vois, et l'importance du lien social diversifié et vrai, où on est là avec les gens, on n'est pas là sur notre téléphone portable toute la journée à essayer de prendre des photos de tout ce qu'on voit. Mais c'est essentiel, et notamment effectivement le lien entre le consommateur et le producteur, il faut qu'ils soient bien plus resserrés en fait et qu'on se comprenne les uns les autres.
Bon, peut-être qu'il faut qu'on développe ce service agricole commun. C'est possible.
Exactement.
Ça
c'est parti.
Ça peut être une idée politique intéressante.
Je prends l'idée, je vais y réfléchir et pousser tout ça.
Je suis assez sûr que tu peux l'emmener très loin.
Non, mais complètement. C'est bien noté.
Ce podcast s'appelle Vlan, donc je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte.
Bah, je suis quelqu'un de positif, donc je vais plutôt ouvrir la porte. Mm-hmm. Mais je vais ouvrir la porte à un monde qui a beaucoup plus de sens et à un système alimentaire qui nous fait du bien à tous autant qu'on est, tous les acteurs de la chaîne, du producteur au consommateur et à notre planète, parce qu'elle en a bien besoin et que le système alimentaire, il a un impact énorme sur la survie de notre planète. Donc j'ouvre la porte à ce nouveau système alimentaire juste et durable pour tous qui nous rendra heureux et qui fera qu'on est toujours là dans 50, 100 ou 200 ans.
Et une petite question pour toi, la dernière, peut-être. Qu'est-ce que tu penses de toutes ces théories sur la surpopulation quand il s'agit de système alimentaire, en tout cas, en restant sur ton périmètre, hein, je veux dire.
Franchement, c'est une question compliquée. Je pense qu'en tout cas, on a largement assez de nourriture pour nourrir tout le monde et pour, comme on le disait, nourrir 10 milliards de personnes. Donc typiquement, la surpopulation, c'est pas vraiment un problème vis-à-vis du système alimentaire. Après, la surpopulation, c'est un problème vis-à-vis de... on opère de façon illimitée dans un monde où les ressources sont limitées. Donc, bien sûr qu'à un moment, on va devoir prendre davantage conscience du fait que nos ressources, elles sont précieuses, qu'elles sont de plus en plus rares et que donc, il faut construire un monde qui opère en connaissance de cause et avec ses ressources limitées, justement.
Parfait. Merci beaucoup, Lucie.
Merci à toi.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg From Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt !